9h, 10h, c'est arrivé cette semaine.
François Claus sur Europe 1.
Bonjour à toutes et tous. Dimanche 26 mai, peu après 20h, voilà le verdict des urnes qui tombe et une double vague qui déferle sur l'Europe.
Merci. Merci infiniment. C'est donc bien une vague verte européenne dont nous sommes les acteurs ce soir.
La poussée de nos alliés en Europe et l'émergence de nouvelles forces politiques sur tout le continent ouvrent la voie à la constitution d'un groupe puissant au sein du Parlement européen.
Triomphe vert, triomphe populiste, Yannick Jadot et Jordan Bardella. Mais si le vrai chiffre était celui de cette participation nouvelle, inattendue, Marion von Rettergem, qui avait écrit juste avant le scrutin cette belle ballade nostalgique sur l'Europe d'il y a 30 ans, nous livrera dans un instant ses réflexions post-scrutin. Mercredi 29 mai, c'est le verdict de Belfort sous le choc. 1000 suppressions d'emplois et une page de 100 ans d'histoire industrielle qui se déchire sous nos yeux.
Et ces gros pourris là, ces gros pourris, ça leur fait rien. Hein, qu'il y a des gens qui vont être sur le tapis, qui n'ont rien dans la gamelle. C'est quoi ? Faut une révolution pour les faire bouger ? Ces saloperies là ? C'est lamentable. Faut pas laisser rester comme ça, baisser son froc, puis attendre que ça se passe. Hein. Que les gens fassent grève, eh ben qu'on défende notre beefsteak. Faut montrer notre mécontentement. Si on bouge pas, on est cuit.
Paradoxe de notre temps, jamais le terrain n'a semblé aussi favorable à la lutte syndicale pour des syndicats qui n'ont jamais semblé aussi fragiles. Nous serons avec Serge Moalti, le réalisateur, qui vient de tourner 6 mois au cœur de Force ouvrière. Mardi 28 mai, c'est le verdict de Bagdad, 7 djihadistes français condamnés à mort. Et voilà le président du pays des droits de l'homme et de l'abolition de la peine de mort, sommé de s'expliquer.
Il ne m'appartient pas de qualifier aujourd'hui le fonctionnement de la justice irakienne. Par contre, comme nos alliés qui ont aboli la peine de mort, il est clair que pour nos ressortissants pour lesquels la peine de mort sera prononcée, nous demandons à ce qu'elle soit commuée en prison à perpétuité ou en autre peine qui correspond aussi à ce que, dans le cadre de nos accords bilatéraux, nous pouvons reconnaître.
Quand l'État français se retrouve au cœur d'un bourbier juridique, diplomatique et moral, nous serons tout à l'heure en direct avec Patrick Baudouin, le président des Ligues internationales des droits de l'homme.
9h, 10h, c'est arrivé cette semaine.
Avec François Claus sur Europe 1.
Bonjour Marion von Rettergem.
Bonjour.
Vous étiez jeudi matin en direct sur Europe 1 avec Nikos Aliagas. Vous exprimiez à ce moment-là votre inquiétude sur le scrutin. Vous veniez de publier un très beau livre, très bien écrit, une balade dans cette Europe mi-nostalgique, mi-inquiète, qui s'appelle « Europe, je t'aime, mon Europe, je t'aime, moi non plus », publié chez Stock. Quelle a été votre réaction dimanche à l'annonce des résultats ?
Je dois dire une forme de soulagement par rapport à ce que je pouvais attendre et l'inquiétude que j'avais des résultats, parce que finalement, on pouvait imaginer que les forces anti-européennes seraient très, très, très largement face aux pro-européens, puisque je ne me défends pas d'être une européenne convaincue, même si je n'ai pas de parti et je ne m'engage pour personne, mais je suis une européenne convaincue. Donc j'avais peur de cette défaite-là. Et c'est vrai que cette défaite a été moindre que celle qu'on pouvait redouter. Maintenant, on peut aussi... même si les 2/3 du Parlement européen sont constitués de forces pro-européennes, il reste quand même un grand tiers. Et en France, en tout cas, on peut l'appeler on peut se voiler la face, dire que Macron a limité les dégâts, que finalement c'est le Rassemblement national est moins fort que ce qu'on pouvait redouter. Malgré tout, il est en tête, il a gagné, et ces forces nationalistes, quoique divisées, quoique bien différentes, sont plus fortes que jamais au Parlement. Et surtout, il y a un air du temps, au-delà des chiffres, je pense qu'il y a un air du temps, une atmosphère, une dynamique qui leur est favorable aujourd'hui.
Vous n'êtes pas rassuré par ce sursaut assez inattendu de la participation. On n'a jamais autant voté depuis 20 ans en Europe, et c'est un phénomène qui a touché absolument tout le continent, comme si finalement la génération des 30 ans d'aujourd'hui semblait vouloir commencer à prendre son destin en main en Europe.
Ça, c'est un point positif. Et puis, on a tellement dit que l'Europe n'était pas démocratique, était en déficit justement démocratique. Je trouve que ces élections, justement, ont un peu montré le contraire, et que les résultats de ce Parlement européen sont un reflet assez exact de ce qui se passe, de la réalité d'aujourd'hui, comme quoi c'est pas complètement déconnecté. Et j'ai perdu le fil là tout d'un coup.
Et que cette génération génération et peut-être finalement l'arrivée de la génération, allez, disons, auberge espagnole ou Erasmus, celle qui, vous aviez 30 ans au moment où le mur s'effondre et vous vivez l'Europe de la paix, vous l'espérez, cette génération qui a été un peu désabusée pendant 30 ans, il y en a une nouvelle qui semble commencer à prendre son destin.
C'est ça, il y a eu ce sursaut démocratique, en fait, il montre un petit peu la victoire de ce que, à la fois, Macron et Le Pen avaient théorisé, chacun à leur façon, dans une espèce de match et de duel un peu pervers, où chacun, finalement, y trouvait son compte dans cette opposition. C'est-à-dire qu'on peut l'appeler, encore une fois, par tous les noms, nationaliste versus progressiste, nationaliste ou mondialiste, etc. De fait, ce match-là s'est installé, et je pense qu'il explique en grande partie la participation plus prononcée des citoyens d'Europe aujourd'hui. C'est que, dans un sens ou dans un autre, qu'on soit contre l'Europe ou pour l'Europe, l'enjeu a été pris en compte et on a pris conscience que quelque chose de grave était en train de se passer.
Alors on a pris conscience des deux côtés, puisque finalement même du côté anti-européen, on a voté et que le Parlement européen va peut-être redevenir cette agora qu'il n'était plus depuis 30 ans, c'est-à-dire un lieu de débat et d'échange.
Oui, je pense que la fin du duopole, du fameux duopole qui avait un peu paralysé le Parlement européen depuis quasiment sa constitution entre les deux grands groupes, hein, le PPE et le groupe des sociaux-démocrates. Il y a ce groupe maintenant intermédiaire qui arrive, qui est celui des centristes libéraux, qui prend beaucoup de force avec l'arrivée des députés de La République En Marche. Les écologistes qui changent beaucoup la donne et qui montrent qu'on ne peut plus faire sans eux aussi. Et tout ça fait que l'Europe va être, peut-être, pour la bonne chose qui sera tirée de ces élections, c'est qu'on verra que l'Europe nous représente vraiment, que les parlementaires ont un rôle à jouer et qu'elle aura plus de politique finalement à faire qu'elle n'en a eu l'occasion auparavant.
Elle est mieux incarnée, ce qui lui manquait peut-être. Oui. Et dans ce sens-là, vous diriez que l'élection de 2019 est un tournant ?
Oui, pour moi, c'est un enjeu absolument historique. D'abord parce que, justement, il installe ce match entre nationalistes et pro-européens, comme on veut les appeler, et qu'il, désormais, en tout cas en France, le Rassemblement national est normalisé, banalisé, installé. Il l'est dans toute l'Europe. Les forces nationales sont présentes et fortes. Et pour moi, ce que j'évoque un peu dans mon livre, je pense que celle qui risque d'arriver, je le pressens et j'en ai la confirmation en voyant qu'elle va bientôt s'exprimer, c'est Marion Maréchal, qui, à mon avis, beaucoup plus que Marine Le Pen, a la capacité de faire le lien entre ces droites nationales en Europe.
Nous allons, derrière ce constat, voir ce que l'Europe va pouvoir construire demain. Il n'y a plus de bloc majoritaire. Alors comment gérer tout ça et transformer ce que les urnes ont démontré ce dimanche? Restez bien avec nous. Marion von Rentergem, auteur de Mon Europe, je t'aime, moi non plus, publié chez Stock, est avec nous ce matin.
Europe 1, 9h-10h, c'est arrivé cette semaine.
Europe 1.
Jusqu'à 10h, vous retrouvez C'est arrivé cette semaine avec François Kloss sur Europe 1.
Et surtout avec Marion von Rentergem qui a publié donc chez Stock Bon Europe, je t'aime moi non plus. Un livre, vraiment, je vous conseille parce que c'est un reportage. Vous êtes reporter au Monde d'ailleurs et qui nous fait voyager de Budapest. Vous étiez au Monde et vous avez une plume et c'est très, très agréable à lire et on comprend ce qui se passe en Hongrie, on comprend avec les chiffonniers d'Athènes ce qui s'est passé en Grèce depuis 2008 également. Nous évoquions donc les leçons de ce scrutin. Il faut transformer maintenant cet essai. On se retrouve avec un Parlement extrêmement fragmenté. Ça peut être une difficulté, ça peut être une chance également d'avoir finalement, texte après texte, des majorités de circonstances qui vont se négocier, qui peuvent faire avancer, Marion von Rentergem, concrètement les dossiers.
Exactement, je pense que c'est un moment politique. Ce scrutin est historique à plusieurs égards, et notamment parce qu'il ouvre enfin un moment politique pour l'Europe, et puis surtout la prise de conscience chez les citoyens, parce qu'on a dit à tort, on a véhiculé depuis des décennies l'idée que l'Europe n'était pas démocratique, que l'Europe était une sorte d'entité abstraite et indépendante de notre vie quotidienne. Au contraire, enfin, on a passé son temps à dire que la Commission européenne, par exemple, décidait tout à notre place. Pas du tout. La Commission européenne ne fait que proposer les directives et les appliquer. Elle ne décide rien. Ceux qui décident, ce sont les parlementaires que nous élisons nous-mêmes, ce sont les chefs d'État et de gouvernement que nous élisons nous-mêmes. Et c'est vrai qu'avec ce Parlement morcelé, les rapports de force traditionnels vont être chamboulés et vont permettre aux petits partis, plus proportionnellement, de jouer leur partition.
Et peut-être d'intégrer, ce qui est la demande très forte de ce scrutin, de véritables initiatives écologiques. On pense aux négociations commerciales en cours avec les États-Unis. Et si l'Europe, ce vieux continent, devenait finalement le pôle d'une nouvelle politique pour sauver la planète.
Oui, et c'est bien l'enjeu, c'est que justement le monde a changé. Enfin, les grandes puissances maintenant se retournent contre l'Union européenne. Nous avons la Russie qui veut carrément la détruire. Nous avons les États-Unis, nos alliés traditionnels, qui nous tournent le dos. Nous avons la Chine qui veut s'emparer du monde. Et l'Europe ne peut pas s'en sortir sans être une puissance à part entière. Et c'est bien le paradoxe, je pense, des forces nationalistes et anti-européennes aujourd'hui, c'est d'imaginer que le repli sur soi et l'égoïsme des nations peut quelque chose dans ce monde turbulent où le multilatéralisme nous fragilise d'autant plus, où la fin du bloc Est-Ouest rend le monde infiniment plus compliqué et plus périlleux si on n'est pas soi-même une grande puissance.
Alors va se jouer également l'incarnation de l'Europe à travers son exécutif, et les négociations ont commencé. Jusque-là, elles étaient traditionnelles, sociaux-démocrates et libéraux se partageaient les postes. Si on incarnait l'Europe différemment, compte tenu de ce nouveau groupe, je ne sais pas, on rêve d'un président de la Commission vert, scandinave, jeune, femme peut-être. Vous êtes dans cet imaginaire ?
Oui, je pense que de facto, l'Europe a manqué de manière criante de pédagogie, d'incarnation, de symbole. Enfin, on avait eu Delors à la tête de la Commission, qui avait été un très grand président. Barroso, ça a été une catastrophe. Nous avons Juncker, qui n'est pas vraiment non plus le symbole de l'Europe dont on rêve, qui est quand même le premier ministre d'un paradis fiscal. C'est pas une très bonne image. Ça donne pas une très bonne image. Donc, il est temps de renouveler les choses. Et là, je pense que Emmanuel Macron s'inscrit dans une bataille face à Angela Merkel, d'abord qui est très importante et cruciale pour lui-même, parce que c'est un peu le deuxième tour de des élections pour lui. Il a perdu face au Rassemblement national. Il ne peut pas se permettre de perdre face à Angela Merkel pour imposer le président de la Commission. Et il est temps, en effet, d'essayer de trouver une Europe davantage incarnée. Moi, je pense que pour la France, il n'y a pas seulement le poste de président de la Commission qui est important, ni celui de la Banque centrale, ni celui du Parlement. Il y a aussi certains postes de commissaires qui sont en jeu. Et traditionnellement, les postes de grands enjeux sont celui des affaires économiques et celui de la concurrence.
Commissaire, vous allez nous dire.
Pour moi, la France, pays de culture et d'intellectualisme, s'honorerait à revendiquer le poste le moins convoité aujourd'hui, qui est celui de la culture, parce que c'est le vrai déficit en Europe aujourd'hui, c'est que nous sommes une civilisation forte, nous avons un socle culturel extrêmement puissant. Il n'est pas question de laisser le christianisme au nationalisme. Nous sommes un continent judéo-chrétien, romano-gréco-judéo-chrétien, et il faut revendiquer cette civilisation forte. Il suffit de se promener en Europe, il y a des choses communes, des paysages communs, il y a des temples, il y a des églises, il y aura bientôt des mosquées, mais enfin, c'est ce socle commun que nous avons et qui fait notre force n'a jamais été enseigné, n'a jamais été martelé, n'est pas inscrit dans l'imaginaire des enfants, des écoliers, des étudiants. Et je pense que la France devrait s'honorer à revendiquer et faire quelque chose de magnifique de ce poste de commissaire à la culture.
Eh bien, votre message est passé, Marion van Rentergem. On a envie d'avoir la saison 2 maintenant, celle-là de l'inquiétude et de la désillusion. Dans mon Europe, je t'aime moi non plus. Vous envisagez une nouvelle balade dans cette Europe de 2019 ?
En tout cas, j'ai pas envie de l'abandonner.
Merci d'avoir été ce matin sur Europe 1.
Europe 1.
Dans un instant, Belfort, sous le choc, voyage au cœur des syndicats avec Serge Mouel.
Europe 1. C'est arrivé cette semaine, continue jusqu'à 10h avec vous, François Clos.
Bonjour Serge Moati.
Bonjour François.
On ne présente plus le journaliste, réalisateur, le passionné débatteur qui scrute la société française, sa politique, mais aussi sa vie sociale, sa vie syndicale. Et c'est pour ça qu'on voulait vous avoir ce matin, Serge Moati.
Merci.
Car vous venez de passer plus de 6 mois au cœur d'un des grands syndicats français, le troisième.
Troisième,
Force,
ouais.
Force ouvrière, qui a une histoire plus que centenaire.
C'est le moins qu'on puisse dire.
Ouais. Et dans ce contexte...
Et qui est un syndicat mystérieux, assez mystérieux, parce qu'on le connaît mal.
On cerne effectivement assez bien la CGT et sa culture révolutionnaire. La CFDT aujourd'hui réforme. Et Force ouvrière est un peu entre les deux.
C'est des mélanges, c'est ça qui est beau. On appelle ça souvent un syndicat d'auberge espagnole. Vous savez, il y a des syndicats, des tendances très affirmées. Par exemple, les réformistes, les anarchistes, les trotskistes, enfin bon, et tout ça tente de coexister parfois, et ça arrive souvent. Et puis là, je suis arrivé à un moment où plus rien ne coexistait.
Puisque c'est au moment de la grande déchirure au sein de Force ouvrière et où Jean-Claude Mailly est mis à l'écart et puis il viendra ensuite...
Non, il partait. C'était la fin de son mandat.
Oui,
après mais
il devait
14
normalement
ans,
assurer sa succession et se passe un coup de tonnerre.
On en parlera. Si
et donc, j'invite les auditeurs à regarder France 5 dimanche soir, 22h35, FO1 syndicat en crise. C'est un très beau documentaire, à la fois historique et actuel. Et cette dimension actuelle nous intéresse particulièrement, puisque quelques heures après l'élection européenne, avec une forme de cynisme, on a appris que plus de 1000 emplois dans une ville qui vit de cet emploi, Belfort, allait être supprimée chez General Electric, repreneur il y a 20 ans de l'historique Alstom. Et ça a été un véritable coup de tonnerre dans cette ville. Je vous propose, Serge Moati, d'écouter ce témoignage recueilli par notre correspondant dans l'Est de la France, Arthur Mbaché, qui était à Belfort mardi. Francis Fontana s'exprime.
Cette année, on va quand même fêter les 140 ans de ce site. C'est quand même pas banal. On va fêter, entre guillemets, les 20 ans de General Electric à Belfort, dans la partie turbine à gaz. Donc ça fait beaucoup d'anniversaires bien tristes. Et je pense que la tristesse, effectivement, elle est due au fait qu'il y a un savoir-faire, il y a un site industriel qui est exceptionnel, qui est très rare, qu'on ne retrouve pas beaucoup ailleurs, ni en France, ni dans le monde. Et puis, General Electric vient casser tout ça et va faire un massacre industriel. C'est très triste pour tous les Belfortins qui se sont... Belfort, il faut se rappeler l'histoire, s'est construit autour de ce site. Il faut qu'on se batte et on en appellera de toute façon à tous les salariés. On n'est pas prêt à laisser mourir ce site.
Alors, il faut qu'on se batte, Serge Moati, dit ce salarié. On a ce paradoxe aujourd'hui en France. On n'a jamais eu un tissu industriel aussi fragile qui se délite. Je ne rappelle pas Ascoval, Ford. Nous avons eu également, la même semaine, Whirlpool, qui a été l'un des symboles de la campagne. Et on a le sentiment qu'il n'y a jamais eu une telle désillusion syndicale. Ou que le syndicat, finalement... qui historiquement remplissait le rôle de canaliser cette colère, n'est plus là.
Ben oui, c'est incompréhensible. Ça va avec la crise générale en fait, de la social-démocratie. Et vous avez vu les résultats des européennes. Où est le Parti socialiste? Où est le Parti communiste? Enfin, et fatalement, il y a des passerelles entre ce mauvais score des partis de gauche et la crise de du syndicat. Parce que souvent, les gens étaient les deux. Et donc ça me fait de la peine. Et je trouve que c'est là, par exemple, Belfort, c'est émouvant parce que il y a pas une famille dans Belfort qui n'a pas travaillé là-bas. Et ça, je trouve ça très 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 émouvant de voir toute une, enfin très émouvant, très dur, très terrible. Bon, alors, le ministre de l'économie a dit, je m'en occupe, il y aura pas de drame. Il l'a dit. Heureusement qu'il l'a dit. Mais à voir, à suivre, et à suivre attentivement.
Mais on a l'impression que la réponse et le regroupement des salariés dans la lutte syndicale, qui était l'un des moteurs finalement du progrès social en France, n'est plus là aujourd'hui. On a eu 6 mois de mouvement social sans syndicat en France.
Oui, c'est vrai. Mais vous avez remarqué, comme moi, que les Gilets jaunes ont obtenu, en leur début en tout cas, plus qu'un syndicat. Et quand il y a des syndicalistes qui essaient de rejoindre le mouvement des Gilets jaunes, ils ne sont pas genre applaudis. Qu'est-ce qu'on peut dire? C'est comme ça.
Et vous attribuez ça à quoi? Une forme d'individualisme sociétal, à une mauvaise réponse et positionnement de ces syndicats? Il faut, vous avez été au cœur de cette machine pendant 6 mois. Est-ce qu'ils ont conscience d'être décalés de cette réalité que vivent les gens aujourd'hui?
Bien sûr qu'ils le savent bien. Ils le savent bien. Il y en a même qui, dans mon film, Laurent Berger, par exemple, le patron de la CFDT, qui lui va mieux, hein, il dit peut-être que deux syndicats suffiraient. Vous voyez, il va jusqu'à dire ça.
Un front réformiste, dit-il, et un front révolutionnaire.
Genre CGT, enfin révolutionnaire. CGT, proche parfois du Parti communiste, comme il l'a été dans le temps. Mais FO s'est créé, justement, et c'est pour ça que je pense que moi, qu'FO a un avenir. Ça regroupe tous les gens qui ne seront hors parti. Et d'où les tendances qu'il y a eu, trotskiste, anarchiste. Ça remonte à la charte d'Amiens de 1906, vous voyez, c'est une vieille histoire. C'est une dissidence de la CGT qui a créé FO. Hein.
Oui,
c'est,
on était passé de la CGT à la CGTU, il y a eu trois grandes CGTU, scissions dans l'histoire.
CGTU, c'était les communistes, et CGT-FO, ça s'appelle CGT-FO, on l'oublie, on a enlevé le mot CGT, mais enfin, il est là quand même. Hein. Et donc, FO s'est créé sur, au fond, le non-communisme. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? Même l'hostilité des fondateurs de FO par rapport au Parti communiste. Voilà ce qu'on peut dire. Mais bien sûr qu'ils se rendent compte de la crise. Enfin, ils ne sont pas, vraiment pas idiots. Et surtout pas le nouveau patron de FO, Yves Verrier.
Mais il y a cette phrase terrible dans votre documentaire. On n'est plus là, nous, les syndicats, pour conquérir. On essaye parfois d'empêcher, dit à un moment un militant.
Mais c'est lui, non, mais c'est le nouveau patron de FO, Yves Verrier, qui dit ça. En parlant à Jean-Claude Mailly, dont je filme le départ, après 14 ans de bons et loyaux services à la tête de FO, je filme ça. Et au départ, je pensais faire un film, vous voyez, mémoire d'un syndicaliste, genre son père, son grand-père, son arrière-grand-père était à FO, et puis il partait, là, etc. Et je ne m'attendais pas du tout à faire le film que j'ai trouvé. Et c'est génial quand on fait un film et que ça ne se passe pas comme vous croyez. Il y a des gens qui ont vu le film en projection, et ça, qui me disent, on se croirait dans une fiction presque.
Tellement il y a une dramaturgie, oui, et que les personnages, en tant qu'être humain, ils vous filmez bien des visages qui sont complètement décomposés en vivant cette histoire. Ouais. Alors, il y a une situation paradoxale parce que cette situation du moment où on dit que les syndicats n'ont plus voix au chapitre comme l'ensemble des corps intermédiaires.
On parle de crise.
Est-ce que finalement, ça ne pourrait pas revenir ? Je vous propose d'écouter une des phrases de Jean-Claude Mailly dans votre film et qui renvoie à la situation d'aujourd'hui.
Quand le pouvoir considère que l'ancien monde est terminé, nous sommes le nouveau monde et nous allons directement discuter avec le peuple, ben, voit ce que ça donne. Quand on se crise des intermédiaires, on se trouve face au mur tout seul, il n'y a plus d'obstacles. Et le mur, on peut se le prendre en pleine poire.
Et on entend et on voit dans le film, évidemment, les mouvements et les violences des Gilets jaunes. Donc finalement, cette situation peut redonner du crédit aux syndicats, vous pensez ?
Je pense, oui, bien sûr. Mais vous voyez, c'est ça qui est terrible. C'est-à-dire que cette idée d'ancien monde, nouveau monde, c'est absolument terrible. Les syndicats, ce n'est pas l'ancien monde, ça ne veut rien dire. Vous voyez ce que je veux dire ? Quoi, le Parti républicain, c'est l'ancien monde, le Parti socialiste, c'est l'ancien monde, les syndicats, c'est l'ancien monde. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire ? Et on arrive dans des situations peut-être inquiétantes pour l'avenir, parce que l'absence de corps intermédiaires, comme on dit, peut être très inquiétante pour le pouvoir en place.
Et on rappelle, par exemple, Serge Moati, le taux de syndicalisation dans les années 60 en France était autour de 1 salarié sur 5. Aujourd'hui, on est à peine à 1 salarié sur 10. Et chez les jeunes, c'est moins de 3%. C'est terrible. Et ça l'est d'autant plus que toutes les études économiques montrent, y compris celles diligentées par le FMI ou l'OCDE, qui ne sont pas soupçonnables d'être des révolutionnaires, que plus le taux de syndicalisation est fort, plus les inégalités salariales et sociales sont faibles.
Mais oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais oui, et cette crise de la social-démocratie, parce que, pardon, je lis ça à l'ensemble, hein, elle est européenne aussi. Elle n'est pas simplement française. Donc qu'est-ce qui se passe ? Comme si toute idée de progrès social était suspecte et menée fatalement au goulag maintenant. Enfin, c'est ridicule. Regardez les travaillistes en Angleterre, même chose, le parti travailliste n'existe pratiquement plus. Et c'est incroyable et intéressant et passionnant, et j'espère que les enfants que nous aurons, vous et moi, monsieur, ils vont vivre autre chose.
Et c'est pour ça qu'il faut voir dimanche soir, donc, Force ouvrière, un syndicat en temps de crise. C'est diffusé à 22h35 sur France 5, puis on pourra le voir en replay.
En replay, bien sûr.
Merci beaucoup Serge Moati de nous avoir accompagnés ce matin sur Europe 1.
Europe 1.
Dans un instant, nous serons avec le président d'honneur de la Ligue internationale des droits de l'homme, 7 Français condamnés à mort cette semaine à Bagdad.
Europe 1, c'est arrivé cette semaine. Europe 1.
De 9h à 10h, vous écoutez François Claus avec C'est arrivé cette semaine sur Europe 1.
C'est une situation très embarrassante dont a hérité ce week-end l'État français, un véritable imbroglio juridique, diplomatique et j'allais dire moral, puisque 7 Français viennent d'être condamnés à mort cette semaine par un tribunal de Bagdad. Bonjour, Maître Baudouin.
Bonjour.
Patrick Baudouin, président d'honneur de la Fédération internationale des Ligues des droits de l'homme. Vous avez entendu, comme nous, le président Macron dans les titres de l'émission. Il parle à la fois d'une impossibilité de s'ingérer dans le droit irakien, tout en demandant de commuer ses peines de mort en prison à perpétuité. Est-ce qu'il n'y a pas là une contradiction ?
C'est un exercice d'équilibrisme là qui relève un peu d'une certaine hypocrisie, parce que d'un côté, il ne faut pas s'immiscer, mais d'un autre côté, on vient nous dire qu'on n'est pas satisfait de la peine, notamment qui risque d'être appliquée, c'est-à-dire la peine de mort. Et c'est d'autant plus hypocrite qu'il y a une condamnation, donc quelque part, d'un État parce qu'il applique la peine de mort, et d'un autre côté, on lui reconnaît le pouvoir de juger, en fermant les yeux là-dessus, et en disant « on ne veut pas s'immiscer ». Donc c'est encore une fois un discours difficilement compréhensible.
Des associations, des ONG, je pense à Human Rights Watch, à Amnesty, dénoncent les conditions du procès lui-même. Le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, à l'Assemblée nationale mardi, était interrogé sur cette question. Et je vais vous faire réagir, Patrick Baudouin, à ce que le ministre déclarait à l'Assemblée nationale.
Contrairement à ce que j'entends ici et là, le procès est équitable. Il y a les audiences sont publiques, les procès sont conduits par un magistrat du siège, assisté de deux assesseurs, le réquisitoire est conduit par un procureur, un greffier consigne en direct l'intégralité des débats, l'avocat est présent, et s'il y a un problème de traduction, l'ambassade elle-même fournit les interprètes, c'est un procès équitable.
Alors voilà ce que disait le ministre des Affaires étrangères. Visiblement, les témoignages qui proviennent de Bagdad, Maître Baudouin, est-ce que vous confirmez, vous, ne sont pas du tout sur cette ligne ?
Non, du tout. Alors là, je pense que c'est mensonger et c'est assez scandaleux de tenir ce type de propos. Certes, l'Irak a compétence pour juger les crimes commis par son territoire, par des ressortissants étrangers, en l'espèce français. Même si d'ailleurs il y a un petit bémol, parce que ce sont des Français qui viennent de la zone kurdo-syrienne. C'est pas si clair que ça, mais admettons et passons là-dessus. En revanche, pour qu'il y ait une compétence respectable et respectée, il faut que certaines conditions soient remplies. Et en particulier, la condition justement qu'évoque M. Le Drian pour dire qu'elle est remplie, ce qui n'est pas vrai, c'est-à-dire le droit au procès équitable. Ce n'est absolument pas le cas. Et là, c'est de l'aveuglement. Qu'est-ce qui se passe en réalité? Ces personnes sont détenues dans des conditions très difficiles, avec torture, mauvais traitement. Pendant la période de détention, il n'y a pratiquement pas la possibilité du recours à l'avocat. On a des instructions complètement bâclées, pour ne pas dire inexistantes. Et quand on arrive à l'audience, c'est un procès totalement expéditif. Il y a eu des images, d'ailleurs, qui ont été diffusées l'année dernière sur le procès d'une ressortissante française. C'est en une demi-heure, maximum une heure, que l'on va examiner la situation d'une personne donc, qui comparaît, et elle va se retrouver condamnée à la perpétuité ou, pire encore, bien sûr, à la peine de mort. C'est dans ces conditions que ça se passe. Il n'y a aucun examen des cas individuels. Ce qu'il faut souligner, c'est qu'il suffit que la personne qui comparaît ait quitté le territoire, en l'espèce la France, pour aller avec Daesh, et cela suffit à condamner. On n'examine pas du tout les crimes qui auraient pu être commis, les actes eux-mêmes. Il n'y a pas d'individualisation.
Oui, s'il y a eu des faits de terrorisme, parce qu'on considère en Irak effectivement que l'appartenance à un groupe terroriste suffit pour une condamnation. Mais est-ce que vous comprenez, Maître Baudouin, que vos propos et que ceux des autres ONG ont du mal aujourd'hui à passer dans l'opinion française, qui a du mal à comprendre qu'on se mette en quatre pour aujourd'hui protéger des citoyens qui ont tout simplement voulu nous détruire?
Non, ça je le comprends. Il est certain que la réaction première, c'est de dire, puisque ces gens-là entendent commettre des actes terroristes contre nous, quittent la France pour aller en Irak ou en Syrie mener le djihad avec des actes barbares et abominables, pourquoi se préoccuper de leur sort ? Ça, c'est la première réaction. Mais je pense qu'il faut faire preuve de pédagogie et aller un petit peu plus loin. Ce sont des ressortissants français. Ce sont des ressortissants français qui, aujourd'hui, donc, vont se trouver jugés dans des conditions mais parfaitement inéquitables, avec la possibilité d'application, et on vient de voir qu'elle a été prononcée, de la peine de mort. Or, nous appartenons à un État qui a quitté ce stade des châtiments barbares, de l'œil pour œil, dent pour dent, et qui appartient à l'Union européenne, qui appartient au Conseil de l'Europe, tous États qui ont aboli complètement l'application de la peine de mort et qui, au terme de toute une série de conventions internationales, revendiquent le droit au procès équitable avec l'application de règles minimum. Or, ce n'est pas le cas. Donc, d'avoir cette attitude de désintérêt pour ces ressortissants français, de dire, bon, ils n'ont que ce qu'ils méritent, c'est renier quelque part les valeurs qui sont les nôtres. Et si l'on rentre dans ce cadre-là, c'est le socle des valeurs démocratiques qui est remis en cause. Je crois qu'il ne faut pas faire de différenciation entre... on va par exemple avoir une attitude un peu différente s'il s'agit d'un ressortissant français qui est poursuivi pour trafic de drogue en Asie. On interviendra plus volontiers. Non.
On reste sur le même principe de droit, on l'a compris. Est-ce qu'il serait possible, Patrick Baudouin, d'organiser le rapatriement et un procès en France ? Est-ce que c'est encore techniquement et diplomatiquement jouable, selon vous ?
La France a parfaitement la possibilité d'intervenir. On a des moyens, on est dans le cadre d'une coalition militaire qui était avec l'Irak contre Daesh et nous pouvons, je pense, obtenir des autorités irakiennes ce rapatriement. Et il y a encore une fois un fondement juridique, c'est que la France a qualité, du point de vue de sa compétence, pour juger ces terroristes.
Merci beaucoup.
La vérité au-delà de tout ça, c'est que les autorités françaises reste très frileuse parce qu'elle sait que l'opinion publique n'est pas favorable.
Ce que vous appeliez au début de notre entretien l'hypocrisie. Merci beaucoup Patrick Baudouin, président de la Fédération internationale des Ligues des droits de l'homme, d'avoir été président d'honneur, d'avoir été ce matin en direct sur Europe
1.
Dans un instant, un géant de l'automobile, Renault, Fiat, Chrysler, va naître. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour notre voiture à nous ? Mathieu Plonneau, historien des mobilités, est entré dans ce studio.
Jusqu'à 10h ce samedi, on vous retrouve, François Claus, avec C'est arrivé cette semaine.
Et c'est arrivé cette semaine, ce mariage annoncé, alors que le divorce Renault-Nissan n'est pas encore tout à fait consommé, loin s'en faut. Un mariage nouveau dans le monde de l'automobile pour créer un véritable géant, Renault, Fiat, Chrysler. Bonjour Mathieu Plonneau.
Bonjour François Claus.
Vous êtes historien des mobilités de l'automobile. On parle d'un groupe qui pourrait produire plus de 8 millions de véhicules par an, qui serait le numéro 3 juste derrière Volkswagen et Toyota. Dans le monde de l'automobile, il faut être grand, géant pour survivre.
Alors il y a une taille critique effectivement à atteindre. Et là, ce que l'on constate, c'est que les plus que centenaires, que sont Fiat et Renault, se portent bien, puisque finalement se chamboule tout. Ce sont deux marques spécifiques, bien ancrées dans le paysage automobile depuis plus d'un siècle, qui rebattent les cartes.
Alors, ils rebattent les cartes. On voit que du côté de Fiat Chrysler, il y avait un retard dans le domaine de la technologie électrique sur lequel Renault est plutôt en pointe, donc ils ont intérêt. Et Renault, avec Chrysler, peut peut-être enfin intégrer ce marché américain gigantesque qui lui échappe.
C'est un jeu de billard, effectivement, à beaucoup de bandes. C'est une forme d'origami aussi qu'on peut déplier, parce qu'il y a des complémentarités, des stratégies industrielles qui se superposent à des stratégies financières et des stratégies de produits, des stratégies d'automobilisme, donc d'usage de la voiture. Et vous avez évoqué les grands défis que sont effectivement l'environnement et éventuellement l'électrification à marche forcée du secteur. Et là, il y a une complémentarité. Mais il y a aussi des complémentarités dans l'automobilisme classique, en fonction des marques qui sont désormais finalement dans le même groupe, qui seraient dans le même groupe, car la chose n'est pas faite. Hein. Un mariage est compliqué, un divorce également, mais là, vous êtes devant quelque chose qui, finalement, chamboule, en effet, le paysage à l'échelle planétaire. Il faut avoir plusieurs images en tête. La carte du monde, de ces grands équilibres de groupes financiers et industriels, les rivalités aussi entre la France et l'Italie, car c'est quelque chose qui a été mis sur le devant de la scène là dans le débat. Le jeu complexe que Renault a avec son alliance avec Nissan, qui est un peu paralysée avec Carlos Ghosn actuellement. Il y a plusieurs choses qui sont impactées par cette alliance, par cette fusion envisagée.
Le véritable enjeu est de créer la voiture propre et la voiture intelligente demain plus vite que les concurrents. C'est une véritable course qui est engagée pour survivre.
Alors vous avez raison, Fortuna, Audaces, Uat, hein, c'est-à-dire qu'il s'agit d'être audacieux en la matière. Et là, de fait, le constructeur qu'est le moteur, puisque l'offre vient des Italiens, mais Renault l'écoute avec grande attention, eh bien, c'est de prendre position dans un marché qui va de plus en plus, au moins médiatiquement, vers l'autonome, la voiture autonome, et vers la voiture électrifiée. Et là, Renault a des atouts. Fiat Chrysler qui sort de convalescence, finalement, parce que l'automobilisme américain était très mal portant il y a une dizaine d'années. Plus classique, effectivement, il y a des enjeux. Il y a aussi un impact qu'il faut souligner, c'est que Fiat Chrysler Automobile a passé un accord récemment avec Tesla pour racheter des droits à polluer. Ceci n'est pas totalement négligeable, parce que Fiat Chrysler était une entreprise de car guys, en fait, quelque sorte, donc vraiment d'automobilisme classique. Et là, on cherche quand même à diversifier la chose. Il y a une deuxième alliance aussi qui est intéressante, c'est l'alliance avec Waymo, c'est-à-dire les Google Cars.
Et ça veut dire que il y a aussi une pression, il va y avoir des sanctions financières si on n'est pas aux normes en termes d'émissions de gaz carbonique. Et donc, il faut y répondre vite.
Oui, le mix énergétique des constructeurs est en jeu. Et là, Renault viendrait équilibrer aussi le bilan pas très flatteur de Fiat Chrysler.
Est-ce que ça veut dire, Mathieu Flonneau, que tout le monde, finalement, aller de Santiago du Chili jusqu'à Osaka, aura demain la même voiture?
Mais je n'en crois rien, c'est tout l'inverse précisément, parce que la gamme des marques qui est proposée ici est extrêmement complémentaire, et l'un des éléments moteurs, c'est la firme Jeep, qui d'ailleurs est un revival pour Renault, si j'ose employer le mot anglais, parce que dans les années 80, Renault contrôlait Jeep, eh bien il y a une dimension là qui est tout à fait intéressante, parce que les Jeep, c'est la voiture par excellence, liberté, le tout-terrain, etc. Elle est très diverse, ce n'est pas...
On va pouvoir maintenir l'identité du marque, parce qu'il y avait des voitures allemandes, des voitures anglaises, une Mercedes est forcément allemande,
les Renault cultures du volant, les cultures automobiles sont très spécifiques, et cette alliance n'est en aucun cas pour les fragiliser, au contraire, on va renforcer les spécificités. C'est tout l'enjeu, mais c'est un enjeu qui est industriellement, et les salariés des entreprises ont raison aussi de se faire des soucis, parce que c'est un enjeu qui joue sur des complémentarités tellement grandes, qui dépasse l'analyste moyen, mais qui dépasse l'industriel moyen, parce qu'on est dans des méga-fusions. Quand même.
Alors, on dit par exemple, pour fabriquer un moteur diesel, il faut 6 employés en moyenne, pour un moteur électrique, il en faut 3.
Oui, mais c'est un enjeu.
C'est un enjeu, et ce regroupement va accélérer ou finalement empêcher ce mouvement,
ce
le réduire
finalement s'inscrit dans ce sens de l'histoire que tous les constructeurs automobiles doivent emprunter.
Et l'identité des marques, la consommation de voitures va évoluer dans ce nouveau schéma mondial?
Ben, il n'y a aucune raison qu'elle s'arrête, déjà, d'une part, donc qu'on le regrette ou non, mais il n'y a jamais eu autant de véhicules vendus. Les marchés sont ouverts, là, désormais, pour Renault, les États-Unis. Peut-être un retour, enfin, il y a des éléments de complémentarité évidents.
Alors, la technologie sera assez universelle elle-même. Est-ce que ça veut dire qu'on va revenir vers des voitures où le design, finalement, l'aspect extérieur va reprendre le dessus?
Oui, à partir de plateformes éventuellement communes, d'économies d'échelle, l'enjeu du design, de la séduction automobile, il persiste depuis les Trente Glorieuses, depuis Roland Barthes, depuis ce mythe automobile qui s'est constitué, depuis véritablement le moment où l'automobile est devenu autre chose qu'un déplacement, autre chose. Et quelque chose qui joue le statut individuel, quelque chose qui joue un engouement national éventuellement. Enfin, la Fiat, les fabriques industrielles d'automobiles de Turin, c'est mythique, tout autant que Renault.
Et on l'a vu peut-être que le pouvoir actuel aurait peut-être dû relire ces mythologies de Barthes, les voitures cathédrales gothiques de notre temps. Je renvoie à votre livre, Mathieu Flonneau, L'automobile au temps des Trente Glorieuses, avec une magnifique couverture. On voit une DS, on voit une Panhard, on voit une Renault 4, ces voitures qui ont bercé notre enfance. La voiture, vous en doutez, reflet de notre époque. Ben, si vous en doutiez, écoutez, les voitures des années 70, c'était le temps d'une forme de liberté, cheveux au vent.
Oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? My friends all drive Porsches, I must make amends. Worked hard all my lifetime, no help from my friends.
Voiture des années 90, on fonce, on défonce.
dans ta Benz, 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 gueule. Quand tu bailles, ton bon passe avant gang, gang, gang. Laisse-moi zoom, zoom, chen. Dans ta Benz, 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 gueule. Quand tu bailles, ton bon passe avant gang, gang, gang.
Voiture des années 2000, et si on prenait le temps de nouveau.
Dans ta Benz, Benz, Benz. Quand tu pointes, ton bon passe avant ding, ding, ding. Laisse-moi zoom, zoom, zen.
Vous aurez reconnu, bien sûr, par ordre d'apparition, Janis Joplin, NTM et les Brigitte. Quelle musique, Mathieu Flodeau, pour la voiture de demain? Une techno-minimaliste, peut-être?
Je ne le souhaite pas.
En tout cas, merci d'avoir partagé avec nous vos réflexions.
Retrouvez C'est arrivé cette semaine, tous les samedis de 9h à 10h sur Europe 1 et en podcast sur Europe 1.fr.